Bonjour, ici David Maniz, vous écoutez le podcast Le Survivologue, épisode 2. On est le 7 janvier 2022. Donc, la persévérance, la niaque, le pitbull garou. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un gros côté comme ça en fait. Entre 2003 et 2015, en gros j'ai travaillé à peu près 80 heures par semaine en moyenne. Certaines années j'ai fait 36 voire 40 stages de survie par année. Dans plusieurs d'une semaine, enfin 5 jours, et une année j'ai littéralement dormi plus de fois dans mon sac de couchage que dans mon lit, pour de vrai. En parallèle, j'ai continué l'entraînement, j'ai continué à me documenter, j'ai continué à former des formateurs, je suis toujours sur plusieurs projets en parallèle en fait. Bref, je suis un blaireau. Et pourtant, en réalité, je suis une grosse flemme, vraiment. Mais vraiment, vraiment, mon élan premier le matin, c'est de dormir en fait. En ce moment, pourtant, je me lève toujours avant 5h du matin, je me bois un petit café, ensuite je me fais une heure de kung-fu, et après je me mets devant l'ordi et j'écris sur mon prochain bouquin qui s'appelle La Faille. Mon élan premier à midi, c'est de prendre une grosse pause, de me mater un film, de glander, mais non, je bosse. Après je mange un peu, je fais mon trading, après je rebosse. Bref. De temps en temps, les gens me demandent comment je fais pour faire autant de trucs, et je réponds que c'est assez simple, en fait, j'ai un objectif. Mais un vrai objectif. Le genre d'objectif qui à l'intérieur des tripes fait « Oh putain, ouais, c'est ça que je veux faire. » Et même quand j'aménage un temps de repos, au final, c'est pour refaire le plein énergie pour cet objectif-là, bien sûr. Alors, plein de gens ont l'air de dire que la détermination, l'effort, la niaque, le travail, c'est un peu des gros mots, quoi. Que globalement, faire un effort de volonté pendant un temps un peu trop long, ça use et qu'on a de la niaque en quantité limitée. Alors je pense que c'est vrai à court terme, mais je pense que ça s'entraîne. Je pense aussi que ça dépend de la motivation qu'on a en fait. Que quand on a la chance comme moi d'avoir un objectif qui nous motive pour de vrai, qui a vraiment du sens, au-delà de notre petite personne, on est à peu près impossible à décourager au final. Pour illustrer ça, je vais vous raconter une vieille histoire. Parce que comme dit le proverbe, pour apprendre quelque chose de nouveau, il faut souvent lire un vieux livre. Et donc j'ai relu Terre des Hommes de Saint-Exupéry, et je suis retombé sur l'histoire de Guillaumet. Alors Guillaumet, c'était un ami de Saint-Exupéry, un peu son mentor si j'ai bien compris, et c'était un des pionniers de l'aéropostale. Alors lui, il avait trouvé un moyen de passer de l'Argentine au Chili, par la Cordillère des Andes, pour amener le courrier du point A au point B. Et là, on est dans les Andes. C'est l'hiver, et il est à 5000 mètres dans ces eaux-là. Et il y a la tempête qui se lève, les masses d'air sont super instables, il y a des grosses turbulences, et des gros nuages, et des grosses chutes de neige. Alors imaginez, vous êtes aux commandes d'un petit avion à moteur des années 30, ok? Vous amenez le courrier du point A au point B, vous êtes à 5000 mètres, il y a de la neige, du blizzard, des masses tourbillonnantes. Et là, boum, lessiveuse, pas de visibilité, crash dans la neige. Et là, on voit 10 ciels ni terre. Pas trop blessé. Il s'est accroché, littéralement, avec les mains à son siège pour pas être éjecté de l'avion pendant la descente. Il a percuté la neige, heureusement qu'il était bien épaisse et bien poudreuse. Et il a attendu de voir quelque chose avant de commencer à bouger parce qu'il savait pas. Distinguer quasiment le ciel de la terre, quoi. Et à partir du lendemain, ça s'était calmé. Et il a commencé à marcher pour redescendre, en fait, pour atteindre la civilisation. Alors, il n'y avait pas de portable ni de radio à l'époque. Hein. Il était tout seul dans la montagne, en altitude, avec beaucoup de neige. Et du froid, évidemment, incroyable, quoi. C'était très, très, très froid. Et donc, il marche. Et à patauger dans la poudreuse et à essayer de se frayer un chemin, il s'épuise, il est trempé. Et à un moment donné, il se couche dans la neige parce qu'il est épuisé, en fait, il en peut plus. Dans ce qu'il raconte, ce qui l'a poussé à se lever, c'est qu'il s'est dit « Merde, l'assurance, pour qu'elle soit versée à ma femme, il faut qu'il trouve le corps. S'ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas de décès, ils n'ont pas de décès, ma femme n'a pas d'assurance, donc il faut qu'il trouve le corps, quoi. » Donc il s'est relevé, et il a vu des rochers un peu plus loin, et il s'est dit « je vais avancer jusqu'au rocher, et je vais me coucher là-dessus pour crever, et du coup, au moins, ma femme trouvera pourra toucher l'assurance le jour où ils retrouveront mon corps, s'ils le retrouvent. Et arrivé au rocher, il s'est dit, ben, je croyais que je pouvais plus avancer, mais j'ai réussi à faire ce petit bout de chemin-là en plus, donc je peux encore avancer. Tant que mon corps fonctionne, je peux avancer. Donc je peux encore essayer de faire un pas. Et il a fait un pas de plus. Et encore un pas, et encore un pas, et encore un pas. Tout son instinct de survie, tout son instinct de préservation, au final, s'était arrêté parce que la mort, à ce moment-là, dans le froid, était plus facile que de continuer à lutter, en fait. De continuer à s'épuiser, à avancer, de continuer à avoir mal, de continuer à sentir ses gelures. Imaginez, le mec avec des chaussures en cuir devait couper des entailles dans ses chaussures avec le bout de son canif pour que ses pieds qui gonflaient à cause du gel puissent tenir dedans. Ok, c'était pas une partie de plaisir le truc. Et il a marché, et il a marché, et il a marché pendant 5 jours et 4 nuits. Un pas à la fois en fait. Il dit qu'à partir du deuxième jour de marche, le plus difficile c'était de ne pas penser. De juste avancer sans réfléchir comme un robot et de juste se focaliser sur pourquoi il avançait. Et il a avancé et il a avancé en se disant, si j'abandonne, je suis un salaud. Tant que je suis en vie, ma femme croit que je marche et donc je marche. Tant que je suis en vie, mes potes croient que je marche, donc je les abandonne pas, je marche. Et il a fini par arriver, enfin, il a fini par redescendre. Il a été d'abord trouvé par un jeune de 14 ans qui a vu un machin qui était méconnaissable, hein, c'était presque plus un être humain, dans une combinaison de pilotes qui gesticulait et qui criait, et il a eu peur et il s'est enfui. Et il est allé voir sa mère, et sa mère est allée voir, et ils ont fini par le récupérer, et la nouvelle a circulé que Guillaume était vivant, quoi. Et c'était inespéré, ils le cherchaient, Syntex et d'autres, le cherchaient, vous imaginez, dans la masse que représente la cordillère des Andes en plein hiver, avec du blanc partout. C'était chercher même pas une aiguille, une tête d'aiguille dans une botte de foin, quoi. Et le mec est descendu par ses propres moyens. Alors, gros respect, évidemment, pour l'exploit physique que c'est déjà, mais l'exploit moral, l'exploit de niaque, de ouf que c'est. Et le secret, c'est que... Alors, Guillaume, il a dit... Ce que j'ai fait, aucune bête aurait pu le faire. Et par là, je pense qu'il voulait dire surtout que c'est pas son instinct qui l'a poussé, en fait. Parce que c'était plus facile de se laisser mourir, en fait. Ce qui l'a poussé, c'était pas la peur de mourir, c'était l'amour. Et effectivement, je pense que sans amour, c'est pas le genre de truc qu'on peut faire. Donc, paradoxalement, au final, les choses pour lesquelles on est prêt à crever, ben, c'est aussi les choses pour lesquelles on est prêt vraiment à vivre et à se battre, quoi. Et comment on trouve ça? Comment on trouve une cause comme ça? Comment on trouve un truc transcendant comme ça? Ben, ça c'est pas à moi de vous le dire. Chacun son truc. Ou pas d'ailleurs. Par contre, comment on développe sa persévérance dans l'absolu? Avec ou sans ça? Eh ben, il faut l'entraîner. C'est comme un muscle. Exactement comme un muscle. On tire dessus, puis on le laisse se reposer en fait. Mais le principe de base, c'est vraiment de se fixer un objectif et de l'atteindre. De se fixer un but petit, atteignable, mesurable, et de le faire coûte que coûte. Un truc aussi qui entame beaucoup la persévérance et la volonté et la motivation, c'est l'incertitude. Et de s'entraîner à être motivé dans l'incertitude, c'est un excellent moyen aussi de développer cette capacité-là, qui est transversale en fait. Ça sert partout. Ça sert au boulot, ça sert dans les relations interpersonnelles, ça sert à s'accrocher à notre empathie quand quelqu'un nous casse les couilles. Ça sert à rester concentré sur un boulot chiant, ça sert à garder la foi, ça sert à pas abandonner en fait. Et il y a tellement de moments dans nos vies où c'est tellement plus facile de dire, bah c'est pas grave, tant pis, personne regarde. Mais c'est là, face à soi-même, qu'on fait la différence en fait. D'ailleurs, Michel Audiard avait une super phrase là-dessus dans un de ses films. Un intellectuel assis va beaucoup moins loin qu'un con qui marche. Alors peut-être des fois le con il marche dans une mauvaise direction. En attendant il avance. Et celui qui se laisse mourir en général il avance pas quoi. Maintenant nuance. Parce que la persévérance c'est super, la niaque c'est super, mais sans un but précis, sans un objectif, ben, on va nulle part. Enfin on tourne en rond, on n'avance pas à avancer. On en connaît plein qui ont le penchant de plutôt ne rien faire. Et j'ai pas forcément de jugement, je serais mal placé parce que mon premier élan c'est vraiment de glander et de rien faire. Et j'ai eu plein de périodes dans ma vie où de l'extérieur, on a vraiment pu croire que je glandais, en fait. Sauf que le combat à l'intérieur, il faisait rage et même si extérieurement c'était pas très visible, dedans je bataillais et j'avançais. Donc oui, il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe là-dedans. D'un côté, il faut réfléchir pour éviter de faire comme la mouche et se taper le nez 192 fois dans la même fenêtre. Il faut savoir prendre du recul, il faut savoir analyser, il faut savoir être malin. Au 7, on dit toujours tricher, toujours gagner. Si tu forces, ça veut dire que tu triches pas assez. Mais ça veut pas dire qu'on s'arrête pour autant. Et j'ai toujours eu beaucoup de mal, probablement parce que ça me fait penser à moi, mais j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les gens dont la seule solution, c'est toujours de forcer plus, de bourriner plus. Comme si le plan B, c'était le plan A, mais plus fort. Bref, c'est un extrême. Et à l'autre extrême, on a ceux qui sont des intellectuels assis. J'ai discuté après une conférence que je donnais à Paris un jour avec un étudiant de master dans une fac prestigieuse, etc. Le mec était brillant, vraiment. Et il était totalement en train de rien branler, de rater sa vie, quoi. C'était évident. Il se trouvait des excuses. Et un peu en mode idéaliste maudit, poète incompris et tout ça, il discutait de l'état du pays, qu'il n'avait pas d'avenir, que ça servait à rien de se battre. De la fin du monde et de l'écologie et de la planète et blabli. Et son analyse était vraiment solide. Je peux pas nier que ses arguments étaient tous bien sourcés, bien articulés, etc. Et j'ai fait ouais, ok, t'es super, t'es un mec brillant, vraiment. Ton analyse elle est bonne, elle est fine. On peut facilement adhérer à ce que tu dis et y a une partie que je pense qui est probablement vraie, même si les pires prédictions ont autant de chances d'être fausses que les autres. Mais par contre, il y a un truc qui me turlupine quand même beaucoup. Et là, il a reculé un peu sur sa chaise. On était dans un café avec les quelques personnes de la conf qui étaient venues boire une bière après. Alors il a regardé sa bière et il m'a regardé et il sentait le coup fourré. Et il a osé dire, ah bon, c'est quoi? Tu as été sûr que tu veux savoir le fond de ma pensée? Et il fait, ouais, ok. En fait, je me demande un truc, c'est que, vu que t'es si malin, là, comment ça se fait que t'es en train de tout planter, en fait? Comment ça se fait que t'es en train d'échouer ton master? Et il m'avait pas dit qu'il était en train de tout planter. Mais j'avais deviné quelque part, parce qu'une attitude pareille et un défaitisme pareil permet pas la motivation, en fait. Et il s'enfermait dans des espèces dans un pessimisme qui lui servait au final de bonne excuse pour rien foutre, quoi. Et le pauvre, il a pris sa claque. Il m'a fait la même tête que le chevreuil dans les phares de la voiture, quoi. Il bougeait pas, il me regardait avec des grands yeux et là, il a cligné des yeux, il a un petit peu rigolé. Et il est parti. Alors ouais, j'avoue, des fois je suis un peu nienne et des fois je suis vachement, vachement dur. Je pense que je tiens ça de ma mère. Ceci dit, 2 mois après, il m'a fait un mail pour me remercier. Subitement, il avait choisi de s'y mettre, en fait. Et il avait commencé à bosser, il avait commencé à s'organiser. Et il m'a dit, ce qui est bizarre, c'est que plus je travaille et plus je bosse, moins j'ai l'impression que l'avenir est morose, et plus j'ai l'impression qu'il y a peut-être de l'espoir. Et effectivement, voyant, enfin là, il est parti aux États-Unis faire un PhD dans une autre école prestigieuse, etc. Et je pense qu'on va entendre parler de lui dans les prochaines années, parce que c'est le genre de mec qui peut vraiment changer les choses, qui peut vraiment avoir une vision, suffisamment précise et vaste pour apporter des solutions. Pour l'avenir, en fait. Mais pas en restant assis. Pas en se plaignant, pas en se disant que tout est foutu et tout ça, c'est la faute à la méchante société, blabla. Non, il faut porter ce qui nous appartient et faire sa part du boulot. Pour de vrai, quoi. Donc ouais, je trouve dommage que, de nos jours, on est habitué, les gens, pas tous, évidemment, mais beaucoup de gens sont habitués à ce que ça soit facile. On a eu les 30 Glorieuses qui ont été 30 ans d'opulence au final et de réussite facile. Alors je dis pas que les gens ils ont pas bossé à cette époque, hein, mais Mais quand même, un salaire permettait de payer le crédit de la maison, quoi. C'était avant. Et avec un bon salaire, on pouvait faire vivre sa famille et payer le loyer ou le crédit et devenir propriétaire et prendre une retraite confortable. Et la retraite, elle était plus ou moins assurée. Et ça allait, en fait. C'était facile. Alors, je suis désolé, hein, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont m'incendier parce que je dis que c'était facile. Je dis pas que tout était rose et tout était facile. Et ils sortaient de la guerre quand même. Et il y avait plein d'effets encore bien palpables de la guerre. Mais aujourd'hui, les gens gardent un peu l'impression que ça peut être comme ça, que ça peut être facile. Et en fait, je pense que c'est mentir aux gens que de dire que là, aujourd'hui, ça va être facile. Aujourd'hui, c'est plus facile. Aujourd'hui, c'est dur. Aujourd'hui, les gens sont remontés les uns contre les autres, les gens se braquent, les gens sont clivés, les gens sont seuls, les gens souffrent. Et c'est un des objectifs cachés de ce podcast, c'est de vous faire rencontrer des gens qui font des trucs qui changent la donne, qui ont des projets comme ça, qui sont, entre guillemets, transcendants dans le sens où il y a une partie de transcendance, il y a une partie de plus grand que soi dans leur délire, dans leur projet, dans leur vision du monde. Et ils n'ont pas forcément des solutions toutes faites ou des solutions tout court. Simplement, le fait qu'ils existent, pour moi, me redonne espoir dans l'humanité, dans ce qu'elle a de plus beau, dans le sens où, bah ouais, c'est la merde, mais tant pis, on le fait quand même. Et même si c'est pas parfait, on n'attend pas que tout aille bien pour être heureux. Pour avoir voyagé un petit peu, j'ai rarement vu des gens aussi malheureux que les Français ou les Américains. Pourtant, c'est quand même une grosse puissance économique. Il y a plein de trucs qui vont bien en France, en fait, par rapport à d'autres pays. Et pourtant, les gens vont mal. Et si on va au fin fond du Népal, dans un petit bled de collines ou de montagnes, où l'école, c'est l'équivalent c'est un hangar agricole par rapport à nos standards, quoi. Il y a des parpaings empilés, de la tôle ondulée. Le tableau blanc au milieu est tellement usé que la peinture ne tient plus dessus et il y a des grands lambeaux de peinture qui partent et il y a la tôle dessous, la tôle d'aluminium et ils écrivent dessus quand même. Mais ils sourient, ils sont heureux en fait et ils se serrent les coudes beaucoup. Même s'il y a beaucoup de dureté aussi dans la société là-bas, il y a une solidarité de fond qui existe et des liens sociaux vraiment forts et du sens. Et donc on arrive dans un village, bah les gens nous sourient, et les gens sont contents de nous voir, et les gens discutent, même si c'est avec le langage des signes. Et il y a moyen, alors qu'ils ont rien et qu'on a tout, bah ils vont nous inviter à bouffer un dalbat. Et évidemment on peut lâcher un billet en partant et les remercier, mais... Et cette générosité-là, et cette joie-là de vivre, moi elle m'a toujours touché dans ce genre de pays, parce que merde. Nous, on se plaint le ventre plein, quoi. Vraiment. Et donc, ouais, moi, je pense que dans ce pays, en France, il y a vraiment plein de gens géniaux. Et j'ai envie que vous les rencontriez. Et il y a peut-être une habitude, comment ça pourrait être, qui a été perdue. Il y a la conscience de comment ça peut être la vie, sans les services publics, sans les services sociaux, sans toute l'aide qu'on reçoit, sans toute l'économie qui tourne. Comment ça pourrait être et comment c'est déjà là aujourd'hui, il y a plein d'endroits dans le monde. Alors oui, on peut dire que c'est pas juste et que il y a des inégalités en France et qu'il y en a qui partent avec 2 millions d'euros sur leur compte dès le berceau alors que d'autres ont rien et d'autres ont des enfances de merde et machin. Oui, c'est vrai. Personne ne part avec des chances égales, mais chacun est différent et chacun a des projets différents et tout le monde peut comme au rugby prendre la balle et l'amener du point A au point B, même si c'est sur 2 mètres. Et je trouve beau cet effort-là, en fait, de devenir soi-même, sans forcément réussir sa vie, selon les standards officiels, t'as pas de Rolex, t'as raté ta vie, quoi, on s'en tape. Mais de devenir soi-même, et de faire ce qu'on a vraiment, nous, envie de faire, de s'autoriser à découvrir au fur et à mesure qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer et de le porter dans le monde. Ça, c'est cool. Et ça donne envie de vivre, en fait. Et c'est un des facteurs, je pense, quelque part de la joie, en tout cas dans plein de pays, parce que les gens sont peut-être moins formatés qu'ici, sont peut-être moins, paradoxalement, enfermés dans des carcans de j'ai pas le droit d'être ci ou j'ai pas le droit d'être ça. Parce que ouais, la réussite, en fait, c'est une grosse prison intellectuelle, en vrai. Et quand on est riche, ben on a peur de perdre ce qu'on a. Et quand on est pauvre, ben on n'a rien à perdre et du coup, on peut tout inventer, en fait. Et c'est. Quand on est pauvre, on est vachement libre. Bref, je digresse. Donc si je reviens à la détermination, concrètement, le piège, en fait, c'est de se retrouver coincé dans un des deux extrêmes entre un bourrinisme et un mode pitbull par défaut, qui manque de réflexion, en fait. C'est de foncer sans réfléchir en pensant qu'en forçant plus, ça va tout le temps passer. Et bien souvent, les gens qui font ça, et j'en fais partie, hein, c'est des gens à qui on a dit qu'ils étaient paresseux, qu'ils étaient lâches. Fallait qu'ils sortent les pouces du cul et tout ça. Et à chaque obstacle, à chaque moment difficile, ben ils entendent la voix d'un de leurs parents qui leur répète ça depuis leur enfance. Et ils s'autorisent pas à lever le pied, ils s'autorisent pas à ralentir, ils s'autorisent pas à changer de plan. L'autre extrême, ben c'est la réflexion perpétuelle, c'est le mode où on planifie toute sa vie un itinéraire parfait pour un voyage qu'on fera jamais, quoi. Un voyage en théorie, quoi. Et c'est d'une tristesse, je trouve. Et les deux, en fait, les deux positions extrêmes comme ça, du bourrin absolu et de l'intellectuel assis, ben, sont inutiles, ça sert à rien, ça marche pas tout seul. C'est la moitié chacune d'une belle qualité. Et il faut savoir doser les deux finement pour arriver là où on veut aller. Il n'y a pas d'autre solution, en fait. Il faut et de la motivation, et de la finesse, et de la niaque, et de l'intelligence de situation. Et un vrai objectif qui nous motive pour de vrai. Et la sagesse de renoncer quand il faut et de faire un petit détour, et etc. En tout cas, aux 7, on dit qu'en montagne, le chemin le plus court est parfois aussi le plus long. Il faut savoir contourner les obstacles pour atteindre nos objectifs, mais il faut pas s'arrêter. Et tout revient à cette histoire d'objectifs, en fait. Parce que le problème, souvent, et c'est vraiment vrai en France d'ailleurs, et dans plein de pays riches occidentaux, c'est qu'on bosse pour bosser, en fait. On bosse parce que ben, nos parents ils ont dit qu'il fallait bosser, on n'a pas vraiment peur de manger, de manquer de nourriture, on a toujours eu à manger à notre faim, un toit sur la tête ou à peu près, même si c'est jamais parfait. Et on n'est pas en mode survie, on bosse parce qu'il faut en fait. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quel est le sens de ce qu'on fait, de notre effort, etc. Et ça motive pas ça. Ça motive pas. Bosser pourquoi? Parce que quoi? Parce que va te faire foutre. Bah non. Et j'ai toujours, moi, été hyper hostile et rétif à tout ce genre de il faut, quoi. J'ai jamais accepté de faire un truc parce que il faut, tant que je n'avais pas compris. Bref, jusque-là, c'est assez limpide. En tout cas, c'est clair en théorie. Je pense que c'est simple à comprendre, mais c'est difficile à faire. On a plein de gens, plein, 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 plein de gens qui continuent à se cogner le nez 192 fois dans la vitre, comme une mouche, quoi. Et voilà. Une fois, quand j'étais gamin, j'étais énervé, j'ai mis un coup de poing dans un mur et je me suis pété les os de la main. Et mon père, il a vu ça, il a rigolé, il a fait bah voilà, t'as vu, c'est le plus intelligent qui a gagné. En plus d'avoir mal, j'étais hyper vexé, puis en plus, il avait raison et ça m'a fait vraiment chier. Mais en attendant, voilà, faut savoir renoncer en fait, des fois, ou changer de plan. Du coup, pourquoi les gens s'entêtent là-dedans? Pourquoi les gens lâchent pas l'affaire? Pourquoi les gens changent pas de plan, changent pas de rail? Bah déjà, je pense qu'il y a un gros facteur de pression sociale, parce que pour nous en Occident et à plein d'endroits, bah soit t'es un loser et tu lâches l'affaire, soit t'es un winner et tu t'accroches, quoi. C'est vraiment posé de manière bête et méchante et binaire et manichéenne comme ça, mais en attendant, ça nous marque quand même. Et il y a une espèce d'effet d'inertie dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire que quand on a commencé à mettre de l'énergie à réussir, et à forcer à réussir plusieurs fois, on s'entraîne un peu à bourriner en fait. Et on se rend compte que souvent ça passe, et du coup pour accepter que des fois ça passe pas, ça demande un petit peu quand même de remise en question, et ça, on a un petit vernis d'orgueil qui se met en place, qui peut assez vite s'épaissir. Donc faire attention à cette espèce d'auto-entraînement-là dans le mode pitbull. Et à l'inverse, quand on a l'habitude de lâcher l'affaire et d'être laxiste et de se laisser aller, ben, on se rend compte qu'on va pas mourir tout de suite et du coup on fait ouais, ben ça va, je peux vivre quand même tranquille et tout. et on fait rien. Ou pas grand-chose. Et je juge pas, hein, encore une fois, c'est ok si on a envie de rien faire, de ne rien faire. Si vraiment, profondément, c'est ce qu'on décide de faire, en toute conscience, bah, allez-y, foncez et glandez. Je vais pas vous jeter la pierre. Si c'est vraiment votre choix. Mais c'est rare que ce soit vraiment un choix, ce genre de truc. Tout comme c'est rare que ce soit un choix d'être bourrin par défaut et de se taper le nez 180 fois sur la fenêtre. Il n'y a pas de conscience ni dans un ni dans l'autre. Aussi, il y a une histoire d'engagement, en fait. Dans le fait de persévérer par défaut et d'en faire trop, c'est que, une fois qu'on a mis de l'énergie dans un projet, qu'on a mis de l'énergie dans une solution, qu'on a pris du temps pour la trouver, ça devient coûteux d'accepter de l'abandonner, en fait. Et il y a une espèce de principe d'autocohérence qui fait que ben, si on a commencé à faire un truc, ça devait être la bonne solution. Sinon, on s'est trompé et ça nous met mal à l'aise et on se sent con. Et du coup, on va avoir tendance à s'entêter juste pour garder la cohérence entre le modèle qu'on voudrait qu'il soit bon et la réalité. Et du coup, on tord la carte, comme on dit en course d'orientation. On se fabrique un peu un réel un peu déformé pour que ça colle à peu près et on regarde un peu ailleurs en faisant c'est bon, sur un malentendu, ça passe quoi. Récemment, j'ai découvert à ce sujet les travaux de Robert Cialdini. Merci Hugues pour le tuyau. Il explique notamment comment ce phénomène-là arrive à coincer des gens et à leur faire faire des trucs qu'ils n'auraient pas vraiment forcément choisi de faire de leur plein gré, quoi. Ça amène tout le sujet de la manipulation, des leviers d'influence, etc. C'est assez flippant de voir à quel point on est sujet à se laisser avoir par ça si on n'est pas au courant des ficelles. Et on en voit partout. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, vous voyez que des histoires de marketing au centre d'appel téléphonique à 2 balles qui commencent par vous dire bonjour, je suis bien machin, et ils vous engagent à répondre ce petit truc. Et après, ils disent une longue phrase à la con qui vous engage à attendre. Et quand vous avez attendu, ben vous allez être patient avec eux. Et vous êtes déjà énervé, mais vous continuez à jouer le jeu. Bref. Ces théories de l'engagement, hein, et ces trucs de manipulation ont fait leur preuve en fait et fonctionnent très très bien et sont très habilement menés par plein de gens qui bossent dans plein de secteurs. Lisez ces bouquins à Monsieur Cialdini parce que c'est riche et c'est fin et c'est vachement intéressant de comprendre comment on fonctionne à ce niveau-là. Autant pour se protéger de ça que pour se motiver soi-même et utiliser les mêmes théories, les mêmes principes pour s'amener à aller quelque part, quoi. Parce que ça marche aussi pour s'auto-coacher, en fait. Et au final, la seule issue, peu importe là où les causes à nos difficultés à changer de plan ou à changer de stratégie ou à prendre du recul, bah, c'est toujours de revenir aux objectifs. Pourquoi on fait ça? C'est un peu comme le blanc d'œuf et le jaune d'œuf, quoi. On peut sacrifier le blanc d'œuf tant que le jaune d'œuf bouge pas. Et moi, mon objectif général, central, ben c'est mon jaune d'œuf. Et celui-là, je le défendrai bec et ongles et je vais jamais l'abandonner, je vais jamais lâcher. Mais pour y arriver, je vais pouvoir le faire de 10 000 manières et chemins et stratégies différentes. Je m'en fous de la forme que ça prend tant que ça marche. Parce que tous les coups sont permis dans la vie, quelque part. Quand il s'agit de réaliser un objectif qui nous parle profondément, qui a vraiment un sens. Très en cohérence avec nos valeurs les plus profondes, avec notre éthique, avec tout. En situation de survie, imaginons vous êtes perdu en montagne. Bah, c'est un vrai, vrai danger de s'entêter à se cogner la tête dans la fenêtre 192 fois, quoi. Laurence Gonzalez, dans son superbissime, absolument génial bouquin qui s'appelle Deep Survival, qui a été traduit seulement en espagnol, je pense, je l'ai pas vu en français encore, mais vous me direz si je me trompe. Il raconte l'histoire d'un pompier aux États-Unis qui a marché comme ça pendant 3 jours sans s'arrêter. Le mec, il avait une tente, il avait un duvet, il avait de la bouffe, il avait tout ce qu'il fallait dans son sac, mais il a juste marché. Par défaut, il a marché. Il a marché jusqu'à se retrouver avec une double fracture, pendu à un arbre dans une pente, mais une pente super raide, dans un orage de grêle, et là, d'un coup, il s'est dit, ah tiens, peut-être qu'il faudrait que je passe au plan B. Guillaumet, soit il marchait, soit il mourait de froid. Il n'avait pas d'autre option, en fait. Donc c'était assez simple, et là, clairement, faute d'une autre solution, bah, il devait avancer en fait. Et dans ce genre de contexte, là oui, c'est indispensable d'activer le mode gros bulldozer pitbull garou et d'avancer un pas après l'autre et de ne pas réfléchir à autre chose. C'est genre, j'avance. Sauf que notre pompier, lui, dans son cas, ben, c'était pas la même chose. il n'y avait rien du tout qui l'obligeait objectivement à se mettre autant dans le mal, sauf l'habitude ou sauf la croyance que c'est ce qu'il devait faire, quoi. Genre, j'avance pour avancer. Et les histoires comme ça en survie, elles sont tellement classiques, elles sont tellement normales au sens statistique du terme que c'est presque flippant. Quand on a étudié les cas d'accidentologie et toute la manière dont les gens se blessent et se tuent dans la nature pour élaborer la théorie autour de nos stages de survie, au 7, eh ben on en a trouvé comme ça à la pelle. À la pelle, il y a plein de gens qui s'entêtent dans des solutions débiles, qui perdent pied, qui s'enferment dans un modèle mental, qui lâchent la réalité puis qui s'accrochent dans leur petite bulle théorique. Leur modèle chéri de la réalité, ils tombent amoureux de leur plan en fait et ils foncent. Et ils s'arrêtent jamais jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Donc écoutez la petite voix, écoutez le petit sentiment de malaise qu'il y a à l'intérieur de vous quand vous sentez que ce que vous faites c'est pas vraiment vraiment ce qui va bien. En tout cas en situation de survie, l'objectif il est simple, c'est de survivre. C'est pas de rentrer le soir, c'est de survivre. C'est pas de pas déranger les pompiers, c'est de survivre. C'est pas de ne pas perdre la face et que les gens se moquent de nous parce que on s'est perdu. Non, c'est survivre. Et bien souvent la panique, ce qu'on appelle la panique dans ce genre de situation, c'est pas les gens qui courent partout avec les bras en l'air en hurlant, c'est pas du tout ça, c'est juste... ça prend plutôt la forme de « on fait comme si de rien n'était et on continue de s'entêter dans une solution qui fonctionne pas ». Le plan B, c'est le plan A, plus fort. Et le plan C, c'est le plan B, encore plus fort. Et la survie est une super école de vie au final et une super manière de repérer les problèmes qu'on amène après dans la société parce que c'est tellement caricatural, les problèmes de survie c'est tellement évident, c'est tellement simple qu'on voit plus clairement la mécanique de nos erreurs et de ce qu'on fait bien, de ce qu'on fait pas bien. Et dans nos sociétés, on amène dans la vie de tous les jours des problèmes de survie en fait. Comme si on était en survie, comme si on avait une maman ours qui nous fonce dessus ou un lion au cul, quoi. Et en fait, c'est pas adapté. En fait, notre espèce, elle a évolué dans un milieu naturel assez hostile au final, en tout cas sans service public, ça c'est sûr. Et même s'il y a eu de la solidarité et tout ce qu'on veut depuis très 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 longtemps au sein des groupes dominidés, des groupes... On a évolué quand même dans un endroit et d'une manière, depuis même avant l'humanité, où les dangers étaient simples et évidents, c'était des dangers objectifs visibles. Quand une gazelle commence à se faire courser par un lion, ben, il faut pas qu'elle change de plan au milieu de sa fuite, quoi. C'est pas quand elle cavale qu'elle doit d'un coup décider de se planquer parce que c'est trop tard. Il faut courir plus vite et si le lion l'attrape, ben, il faut courir encore plus vite pour essayer de s'en sortir et quitte à changer de direction et tout ça, mais il faut foncer, quoi. Il faut pas abandonner, il faut garder le même plan et l'appliquer à fond, plus fort. Et donc, quand on est stressé, on se rabat un peu sur ce genre de fonctionnement-là et ça devient problématique dans une société et dans un monde où on pour survivre et pour vivre, c'est pas des compétences comme ça dont on a besoin. On a plus besoin de finesse, de logique, de stratégiser, d'être intelligent, d'être en relation avec les autres, de coopérer. Et ça devient souvent très difficile à faire quand on est stressé et qu'on embraye sur un mode de survie de cet ordre-là, en fait. Donc il faut bien placer et bien circonscrire les endroits où on doit utiliser ce genre de compétences de survie-là en mode « je bourrine ». Et ne pas les laisser envahir notre manière de fonctionner en temps normal. Et c'est là que c'est souvent difficile, en fait. Au final, un bon objectif, c'est souvent très simple. Plus c'est simple, un objectif qui tient en un SMS, pour moi, il est assez idéal. Et il doit être très chargé en émotion, en fait. Il doit avoir un sens profond qui parle à nos valeurs profondes et à notre émotionnel, et si on doit prendre du temps à faire un truc dans notre vie, c'est de bien formuler nos objectifs, justement. Parce qu'avec un bon objectif, on a de quoi prioriser les étapes de notre plan, on a de quoi adapter notre stratégie globale, on a une clé de sélection pour faire... pour choisir ce qu'on fait et ce qu'on fait pas, et dans quel ordre on le fait, etc. C'est l'objectif, en fait, est vraiment une clé fondamentale, à mon avis, pour avoir un sens à ce qu'on fait, et du coup d'avoir une raison d'être persévérant, que ce soit plus facile d'être persévérant, parce qu'être persévérant pour être persévérant, c'est difficile. Une des autres grosses raisons à notre mal-être, je pense, c'est que comme on a évolué en groupe, en petits groupes, dans des contextes difficiles, avec de l'adversité, mais des problèmes concrets, on s'est adapté en tant qu'espèce à ça et on est fait, entre guillemets, pour vivre comme ça. Et c'est un truc qu'on vit souvent en stage, c'est qu'on se retrouve en petits groupes, dans le milieu naturel, et quand on a froid, ben on fait du feu, s'il pleut, ben tout le monde se met à l'abri, et en fait, il y a une espèce de solidarité automatique qui émerge dans ce genre de groupe et dans ce genre de contexte, parce que on est fait pour ça, en fait, et on se sent bien là-dedans. Quand on est auprès du feu, même s'il fait froid, qu'on est à côté du feu, qu'on a moins froid, qu'on discute, qu'on rigole, on a l'impression que c'est un peu ça la vraie vie, on retrouve quelque chose de profondément simple et vrai pour nous en tant qu'espèce. Et ça fait du bien en fait. Juste d'être là, ça fait du bien. Et si on a le problème inverse? Si notre problème c'est qu'on réfléchit trop, qu'on anticipe trop, et qu'on a du mal à se mettre en mouvement, il y a un proverbe breton qui dit ça, c'est qui trop écoute la météo passe sa vie au bistrot. Et c'est pas faux en fait. À un moment donné, il faut être capable de se mettre en mouvement, même si la météo est pas vraiment certaine. Et il faut apprendre et s'entraîner à tolérer une petite part d'incertitude. Parce qu'on n'a jamais vraiment toutes les réponses avant de commencer, quoi que ce soit de toute manière. La carte n'est pas le territoire. Et même avec un plan parfait, une méthode parfaite, totalement, absolument réfléchie, avec tout d'anticipé et tout, bah en fait la réalité va toujours être plus complexe que ce qu'on croit ou légèrement différente. Et on va devoir s'adapter, quoi qu'il arrive. Alors autant se faire à l'idée en fait. Cos D'Amato, le coach de Mike Tyson, disait très justement, à mon sens, que tout le monde a un plan jusqu'au moment où il prend un pain dans la bouche, quoi. Alors je paraphrase un peu, mais l'idée est là, en fait. Et c'est vrai, sur le chemin, on va rencontrer des obstacles, peut-être même des pains dans la bouche, et il va pas falloir se décourager, il va falloir continuer, il va falloir rester adaptable, flexible et motivé. Et Winston Churchill. Alors vous me direz, hein, si vous en avez marre que je cite toujours Winston Churchill. Il disait que la réussite, ça consiste à aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Ça veut pas dire comme la mouche se taper le nez 192 fois dans la même fenêtre, on est d'accord. Mais d'aller du premier échec à l'échec du plan B, à l'échec du plan C, à l'échec du plan D, et continuer de chercher un plan et un autre, et un autre. Donc pour résumer, la persévérance est la moitié d'une grande qualité, l'intelligence et la flexibilité et la capacité de remise en question, bah c'est l'autre moitié de cette grande qualité. Et j'avoue que je trouve ça juste hallucinant que dans la langue française, on n'ait pas été foutu de faire un mot qui réunisse les deux en fait. Le subtil mélange dynamique et intelligent entre la niaque et l'intelligence de situation. J'aimerais vraiment beaucoup que ça porte un nom. Donc si vous connaissez un mot qui décrit ça, je prends vraiment. Et bref, quand vous gambergez, si vous, pardon, si vous gambergez trop, eh ben bougez. Passez à l'action. Faites un petit truc pas dangereux et pour vous mettre en mouvement, vous allez voir que ça va faciliter la suite. Et si ça fait 191 fois que vous prenez la gueule dans la fenêtre, ou la fenêtre dans la gueule plus exactement, ben arrêtez, réfléchissez en fait. C'est valable en situation de survie, c'est valable dans les couples, c'est valable dans les boulots, les projets, pour l'entraînement, pour les modèles économiques, pour les civilisations et leur espérance de survie sur leur biotope. C'est valable pour tout. Et c'est une vraie compétence transversale. D'être capable d'avoir la niaque intelligente, c'est pas mal. Et ça se travaille. Alors moi, je vais travailler mon intelligence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous. Si le podcast vous a plu, s'il vous plaît, partagez-le. Il est gratuit, il va rester gratuit. J'ai rien à vous vendre, j'ai pas envie que ça devienne payant. Dans tous les cas, balancez-moi vos feedbacks, vos idées, des invités potentiels, des sujets à traiter, des bouquins à lire, des tomates pourries, des œufs, tout ça. Je prends, j'en tiens compte. Dans les prochains sujets et surtout un prochain invité, je vais avoir l'honneur d'accueillir Christian Clos, qui est un chercheur, explorateur, écrivain franco-suisse, qui est le leader du projet Adaptation notamment. C'est lui aussi qui a été 40 jours dans une grotte l'an dernier pour étudier les effets de l'absence de cycle circadien, donc l'alternance jour-nuit sur le cerveau et l'adaptation des groupes, etc. Un mec génial, très impliqué, très intéressant, avec plein de projets et une vraie intelligence humaine, je trouve. Alors j'ai hâte de discuter avec lui, j'essaie de lui faire raconter un peu sa vie et comment il en est arrivé. Comment il en est arrivé là. Voilà. Merci. Restez pipou. Je voudrais remercier Jordan pour les conseils techniques et les recommandations pour le matos. Si le son est meilleur sur cet épisode, bah, c'est grâce à lui. Merci aussi à Anso pour l'idée de sujet. Merci à Pierre du Brésil qui m'a donné la bonne idée de rajouter la bibliographie des trucs dont je parle à la fin des podcasts pour que vous puissiez lire et commander les trucs. Et donc dans cet épisode, j'ai parlé de deux points. Terre des hommes de Saint-Exupéry, un autre bouquin, Influence et manipulation de Robert Cialdini, Cialdini. On peut aussi trouver un résumé de son boulot sur la chaîne YouTube Mind Parachute. Troisième bouquin dont j'ai parlé, Deep Survival, de Laurence Gonzalez, qui a été traduit seulement en espagnol a priori. Et voilà, je crois que c'est tout. Allez, ciao!